Nous sommes au mois de juillet 1963. Le paquebot Antilles, par une radieuse journée tropicale, vient d'accoster dans le port de Pointe-à-Pitre. J'avais la responsabilité du dernier contingent des départements d'outre-mer revenant de la guerre d'Algérie, qui, comme moi, venait d'être démobilisé. Beaucoup rentraient chez eux, après avoir vécu, sans le savoir, la dernière guerre coloniale de la France. Ils avaient assisté, impuissants, aux vexations, aux humiliations, voire à la torture et à la corvée de bois. Influencés par la révolution cubaine, admirateurs de ses héros Fidel Castro et Che Guevara, ils concevaient de manière différente les rapports entre l'Hexagone et la Guadeloupe. Ils allaient vite côtoyer des lycéens effondrés qui avaient vu l'État français appliquer une ordonnance scélérate, votée en octobre 1960, permettant de muter d'office des fonctionnaires sous le motif de troubles à l'ordre public. Sinon, on ajoute que le GONG, groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, qui avait été créé le 23 juin 1963 à Paris, militait pour une Guadeloupe libre, souveraine et heureuse, commençait à avoir sympathisants et adhérents. On comprend dès lors qu'un nouveau courant de pensée et une nouvelle vision étaient sur le point d'émerger. Ce nouveau regard sur le monde était en opposition presque systémique avec le Parti communiste guadeloupéen, dont le rôle habituel d'opposant était en réalité inféodé aux injonctions du Parti communiste français. En d'autres termes, l'opposition aux idées était jusqu'à cette époque conditionnée par une idéologie qui ne remettait pas en cause l'appartenance à l'Hexagone. Le GONG prenait alors à revers cette idéologie consensuelle qui n'entendait pas modifier l'ordre établi. J'étais donc sous le paquebot, l'officier le plus gradé. De sorte qu'au moment de franchir la passerelle, le commandant du navire et moi étions les premiers, à vrai dire les seuls, à franchir le sol guadeloupéen. C'est donc avec une grande fierté de retrouver ma famille en tenue d'apparat que je pris le temps de savourer ce moment aussi exceptionnel que fugitif. Les dieux, les divinités, la providence, ou tout simplement la chance, m'avaient épargné. Et je revenais sain et sauf, diplômé de l'école de médecine de Bordeaux, lieutenant au sein de l'armée française, et c'est tout naturellement que des militaires basés en Guadeloupe me présentaient les armes. Cette cérémonie, brève et martiale, avait suscité l'admiration de tous. Il m'appartenait désormais de reprendre pied dans la vie civile, mais en disposant d'un solide bagage et malgré le temps passé à la guerre, la conviction d'avoir réussi à m'extirper d'embûches inextricables qui, à la réflexion, avaient jonché ma jeune existence. Je me souvenais encore qu'il avait fallu que je travaille dur pour payer mes études, ne disposant pas d'un prêt d'honneur. Pour des raisons aussi obscures qu'extravagantes, je n'avais pas eu d'autre choix que de postuler au sein de l'éducation nationale comme instituteur après le baccalauréat. Le hasard permit de trouver un local à faible coût au faubourg Victor Hugo à Pointe-à-Pitre pour y exercer mon métier. La ville de Pointe-à-Pitre était véritablement à cette époque le centre névralgique et économique du pays. La Guadeloupe était alors une société rurale, ouvrière, sous un modèle économique manifestement néocolonial. Il y avait quatre strates sociales bien distinctes. Les usiniers, qui pour un certain nombre d'entre eux, étaient des descendants d'esclavagistes. Des fonctionnaires et assimilés, dont le nombre était de plus en plus grandissant. Les professions libérales, comptant peu de représentants, le peuple des villes et des campagnes dont le sort était lié à la canne à sucre. Le fait que je sois installé parmi les pauvres, c'est-à-dire parmi les gens démunis de grands savoirs, de logements décents, n'était ni un choix idéologique ou éthique, mais une contrainte, simplement et simplement, peut-être intuitivement, un retour aux sources. À la mort de mon père, nous avions, ma mère et moi, connu la misère, le désenchantement, l'abaissement social. Elle était couturière et il a fallu faire sans Victor, son mari, son compagnon, l'homme de sa vie. Moi, j'avais une famille à l'image de mes idéaux, une épouse douée pour les études, dotée d'un solide bagage universitaire que n'altérait pas sa très grande beauté. Deux enfants que j'avais vus naître et un troisième qui ne tarderait pas à venir.